Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a décidé d'inverser l'horloge biologique. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Soumaïa Idrissi, bonjour.
Bonjour, Lala Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui, Lala Soumaïa. Comment ça va?
Ça va, très très bien. Très bien.
Ah ben, écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous avoir. Écoutez, je suis tombée par hasard sur votre profil Instagram et sur lequel j'ai pu voir Fitness Addict, Mom of Two, spécialisée en postnatal et préménopause. Et en toute honnêteté, ce qui m'a le plus attirée, c'est cette dernière phase, c'est la préménopause. Alors justement, une femme marocaine qui en parle sans tabou, et qui aide les autres femmes à traverser cette période, c'est rare, pas seulement dans le contexte marocain, mais dans le contexte international. C'est vrai qu'actuellement, les langues se délient par rapport à la préménopause et la ménopause, mais voilà, ça reste quand même encore très tabou de par le monde.
Ben, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que ça engendre beaucoup de souffrance. Moi-même, je l'ai vécu. Et puis, c'est dommage que ça soit tabou parce qu'il y a tellement de phases par lesquelles une femme passe et qui ne comprend pas. La famille autour d'elle ne comprend pas, ça crée des conflits sans comprendre et sans essayer d'aller chercher ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on passe de la joie à la tristesse, beaucoup de sautes d'humeur et puis surtout la prise de poids. La prise de poids, beaucoup de femmes viennent vers moi et me disent que elles font tout ce qu'il faut, mais n'arrivent pas à perdre et ne reconnaissent plus leur corps. C'est ce qui m'a poussée à aller chercher et creuser un petit peu plus. Personnellement, c'était pas mon domaine. Je suis dans l'enseignement. Et pendant le Covid, j'ai toujours fait un peu de sport, mais c'est vraiment venu pendant le Covid. Donc, en m'occupant, j'ai commencé à chercher, à me renseigner. J'ai eu affaire à des coachs et je voyais que les coachs ne pouvaient pas comprendre qu'il y a un programme. Il leur a dit donc, mais qui fait mon chômage? J'ai compris, je me suis sentie incomprise.
Donc, et vous étiez déjà dans cette phase de préménopause ou de ménopause?
Oui, de près.
De pré-ménopause. Donc de changement de corps.
J'avais 45 ans, toujours mince, dynamique, et puis tout d'un coup, on voit, le ventre qui sort, on ne se reconnaît pas. Je me suis inscrite à une formation et je me suis dit c'est l'occasion d'aller me coacher moi-même comprenant. Ouais.
Alors, vous avez même fait un changement de cap, un changement de carrière, un changement. Et la prise de conscience, ça s'est faite pendant la pandémie aussi. Je ne veux plus être dans l'enseignement, mais en fait, je veux enseigner autre chose à d'autres personnes, en quelque sorte.
Oui. Bah, écoute, ça reste toujours quand même une sorte de transmission.
Exact.
J'ai eu un déclic pendant le confinement, pendant le Covid. Oui. Un gros déclic. Je me suis dit d'abord, il faut que je prenne soin de moi. Il est temps de me concentrer sur moi. Si je ne le fais pas par moi-même, parce que j'ai essayé de me faire aider par d'autres personnes extérieures, mais ça ne marchait pas. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une période préménopause, ménopause assez délicate pour une femme. Alhamdoulilah, ça a marché. En tout cas, ça a donné des résultats sur moi. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux autres femmes. Quand on me dit, je suis capable. Je suis un être humain comme tout le monde. Je suis une femme. C'est avec les problèmes hormonaux, etc. Donc, avec tout le stress de la vie. Donc, si je peux, tout le monde peut.
Mais alors, vous avez raison. Mais par exemple, vous, ça vous prend au quotidien quelle organisation? Parce que finalement, j'ai l'impression que quand on a envie de maîtriser ce corps qui change avec la ménopause et la préménopause. C'est, en fait, tout tourne après autour de cet organisme et de ce corps. Le sport, l'alimentation, tout, en fait. Mais ça demande une implication de combien au quotidien ? Parce que je pense que c'est au quotidien.
Ça demande une discipline.
De
ça
faire.
Ça demande une discipline, oui. Ça peut être dur au début. Il suffit juste de ne pas lâcher, d'être bien accompagné par quelqu'un qui va nous motiver. Moi, j'ai toujours été très soutenue par mon mari. Donc, quand il voyait que j'allais lâcher, il me reboostait, il me disait « Non, tu y es presque. » Voilà. Il suffit d'être bien entouré. J'ai mes filles aussi, j'ai deux filles, qui sont tout le temps derrière moi. Donc, oui, alhamdoulilah, je trouve que j'ai eu de la chance par rapport à ça, d'être soutenue et bien entourée. Parce que eux-mêmes subissaient un petit peu, ne comprenaient pas quand je criais. J'avais des sautes d'humeur. Je pleurais. Et puis,
À quel moment vous avez compris que c'était ce changement hormonal qui vous rendait comme ça ?
Quand je suis allée consulter, voir un médecin. Voilà. Alors le médecin m'a dit, voilà, vous pouvez traiter par médicaments. Et il était hors de question pour moi d'en prendre. Donc voilà, je ne voulais pas avoir un traitement hormonal. Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Et puis je me suis inscrite à une formation, etc. Et puis voilà.
Donc vous n'avez pas pris tout ce qui est traitement hormonal substitutif. C'est quoi, la peur des médicaments ?
Non, c'est déconseillé parce que j'ai des problèmes de santé qui font que je ne peux pas prendre de traitement hormonal et tout.
Voilà. Je comprends. Alors, Lala Soumaya, mais vous, au quotidien, vous avez le soutien de la famille, etc. Vous, aujourd'hui, vous êtes, on va dire, coach en préménopause et ménopause.
Oui.
Accompagnatrice en préménopause et ménopause, ce qui est formidable. Franchement, c'est un très beau changement de carrière parce que toutes ces femmes... incomprises finalement, qui peuvent au contraire avoir un modèle et de surcroît ce modèle qui est formé pour les accompagner. Je trouve ça formidable comme changement de carrière. Vous, au quotidien, ça vous prend combien de temps pour vous-même, cette discipline, pour vous maintenir, pour construire vos muscles, pour protéger votre cœur, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, pour lutter contre la graisse viscérale, pour toutes ces choses-là. Ça vous prend combien d'heures d'activité physique ?
J'en fais une heure et demie par jour.
Pas
Il
plus.
Suffit de bien faire, ce n'est pas le temps qui compte. Eh oui, pas plus. Le but, c'est de bien s'entraîner. Après, on peut s'entraîner pendant 2 heures et 3 heures sans résultat.
Oui.
Et je vois beaucoup de personnes à la salle faire ça. Mais non, il suffit juste de bien exécuter ces mouvements, bien exécuter, bien progresser de la bonne manière. Voilà. Et il y a l'alimentation qui joue énormément aussi. Ça rentre énormément. Je sais qu'à un certain moment, les gens commencent à diminuer. À un certain âge, automatiquement, dans leur tête, ils commencent à diminuer les protéines. Ah, je ne vais pas manger de viande le soir parce que je ne vais pas arriver à dormir, c'est mauvais. Non, au contraire, à partir de la quarantaine, c'est là où faut augmenter, mais de manière considérable, son apport en protéines pour pouvoir garder son muscle et le construire, parce que c'est très difficile de construire un muscle pour une femme déjà, à la base, une jeune femme. C'est beaucoup plus difficile que pour un jeune homme. Donc, imaginez, déjà, le métabolisme commence à ralentir à partir de la trentaine. Donc, une fois qu'on a dépassé ce cap de se forcer avant d'installer cette routine, quand ça devient facile, parce que là maintenant, pour moi, je ne vois pas de contraintes pour moi, c'est ma vie. C'est devenu facile.
C'est donc, votre quotidien.
C'est mon quotidien, voilà. Donc, il faut dépasser ce cap. Une fois qu'il est dépassé, c'est parfait, ça roule.
Alors justement, on voit souvent ça avec les influenceurs, les influenceuses sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mais moi, je vous pose la question dans notre podcast. Une journée type dans votre assiette, c'est quoi ?
Alors, j'essaye de manger le plus sainement possible.
Petit déjeuner, ça ressemble à quoi ?
C'est des œufs. C'est des œufs. Ça peut varier. Des œufs, des granolas, un petit peu de matière grasse, de l'avocat, des fruits. à midi, ça va être un petit peu de glucides, beaucoup de protéines et beaucoup de fibres, c'est-à-dire des légumes, je ne compte pas. C'est non-stop, les légumes. C'est-à-dire qu'on peut en manger autant qu'on veut. Mm. Le soir, c'est pareil. Beaucoup de légumes aussi, beaucoup de protéines. Et un petit peu de laitage.
Un petit peu de laitage. Et donc, tout ce qui est, on va dire, un peu sorti de cadre, vous vous permettez ça de temps en temps ?
Bien sûr que je me permets. Vous savez, une fois que le métabolisme est boosté, il continue de brûler, même en ne faisant rien, parce que le muscle est là, il a besoin de manger. Donc c'est sûr, hein, je me fais plaisir en mangeant une pizza de temps en temps, des glaces. Oui. Non, je suis assez gourmande, j'aime bien manger, je me fais plaisir. Des gâteaux, des tartes. Non, je ne me prive pas. Après, je ne suis pas dans l'excès. Mmh. Et ce que j'ai éliminé complètement de ma vie, c'est tous les produits transformés.
Oui.
Tout ce qui est industriel et transformé. Oui. Parce qu'on peut se faire plaisir avec de bons gâteaux faits de manière très artisanale et qui sont très bons.
Alors, je voudrais quand même qu'on aille sur un autre volet, celui de la vie privée, parce que vous avez vécu ça, comme on dit, en vous et au sein de votre famille, ce changement hormonal, les sauts d'humeur, le corps qui change, etc. Et vous avez dit une chose très importante tout à l'heure, vous avez dit « j'ai eu le soutien de mon mari ». En même temps, comme on a démarré au début en disant « malheureusement c'est tabou », c'est aussi tabou au sein des couples de parler de ménopause. Moi j'ai beaucoup entendu des femmes dire « je ne veux pas que mon mari sache ». Que mes menstruations se sont arrêtées. Vos coachés à vous, est-ce que parfois vous en parlez aussi, parce que vous parlez de corps, de nutrition, mais j'imagine qu'on se lie de relations au-delà de ça.
Oui. Alors avec mon mari, on a toujours été dans la communication. Voilà. Donc sans communication, il n'y a rien. Donc oui, bien sûr qu'il a suivi les étapes avec moi, il les a vécues, il ne comprenait pas au début. Donc il fallait quand même que je lui montre un petit peu certaines études scientifiques. Et c'est petit à petit. Oui. C'est vrai que l'homme aussi le vit mal, hein, en général, à la maison. En tout cas, pour ma part, hein, selon mon expérience à moi.
Il le vit mal de voir sa femme comme ça ?
Oui.
Ouais.
Moi, il était dans l'incompréhension. Total. Alors, on a beau quand même expliquer, mon mari quand même est assez cartésien, c'est un scientifique aussi, mais il fallait quand même lui mettre sous le nez des études très sérieuses et lui montrer que voilà, A plus B, c'est comme ça et c'est pas autrement, et que c'est un passage obligé. Alors, ce qu'il ne comprenait pas un petit peu, enfin, ce qu'il ne comprenait pas surtout, c'est les changements d'humeur. Les bouffées de chaleur soudaines. Voilà. Donc, le fait que je sois fatiguée, que je m'enferme dans ma chambre parce que je suis en pleine bouffée de chaleur et là, j'y arrive plus. Je ne peux plus rien faire. C'est bon. Ni parler, ni il faut que ça passe. Donc, et malheureusement, beaucoup de femmes se sentent. Elles s'isolent, effectivement.
Ouais.
Et ça crée une grande souffrance. Dernièrement, j'ai eu une dame qui m'a écrit et qui m'a dit « Je me sens, je pense que je suis en dépression et je me sens inutile.
Ouais. »
Voilà. Quand elles arrivent à ce cap-là, en général, les enfants sont grands, ils volent de leurs propres ailes. Elle se retrouve face à face avec son mari quand elle est toujours mariée ou quand il est toujours là. Incompréhension, un grand mur se construit entre eux. Les femmes se focalisent en général sur leurs parents, mais quand elles perdent un de leurs parents, voilà, c'est la dépression pour elles. Elles ont l'impression que ça y est, tout est perdu, que... Elles se sentent vraiment incomprises et très, très isolées, surtout. Très isolées.
On va toutes traverser cette période. C'est une réalité, en fait. Celles qui n'y sont pas, qui ne l'ont pas dépassée, elles vont y arriver.
Exactement, oui.
Et on dit.
Et elles le vivent de plus en plus jeunes.
C'est ça, en fait. J'ai l'impression. En fait, c'est incroyable parce qu'avant, on ne parlait que de ménopause. Maintenant, on parle de périménopause. Et apparemment, cette périménopause, c'est 10 ans avant la ménopause. Et des fois, je me dis, est-ce qu'à force d'en parler, finalement, est-ce qu'à force d'en parler, on la vit pas encore plus tôt parce que tous les changements au niveau du corps, on les ramène et on les rattache forcément à cette ménopause.
Ça dépend des femmes. Oui. Ben, elles ne l'acceptent pas, c'est sûr. Après, moi, j'en connais qui l'ont eu à 35 ans, mais tout ça, après, c'est une question de génétique et puis d'alimentation et autre chose. On va rentrer vraiment dans un domaine très médical,
ouais.
qui n'est pas mon... Enfin, c'est un domaine que je ne maîtrise pas beaucoup. Ceci dit, avec mon expérience, oui, effectivement, il y a... Là, je vois de plus en plus de jeunes femmes qui le vivent. Mais ce n'est pas parce qu'on a des sautes d'humeur ou une bouffée de chaleur qu'on est en préménopause aussi.
Ouais.
Donc... Il y a des signes quand même assez flagrants. Donc, quand les menstruations deviennent très irrégulières, là, elles le comprennent. Elles comprennent et puis, bon, ben, obligées d'aller consulter parce que, avant quand même de coacher une dame, faut quand même qu'elle. Moi, je lui conseille toujours d'aller consulter d'abord.
Un gynéco.
Ah oui.
Oui.
Oui, pour savoir exactement si elle est vraiment en préménopause ou pas, parce que moi, je ne peux pas poser un diagnostic dessus. Beaucoup de femmes me demandent de diagnostiquer ça, mais non. Elles ont peur peut-être d'aller chez un médecin et de faire face à la réalité. Donc, voilà.
Alors, il y a aussi un autre point, c'est que, encore une fois, parce que c'est assez tabou, votre mari vous a soutenu, mais vous a soutenu publiquement aussi, parce que le fait que vous ayez une page Instagram sur laquelle vous parlez de ça, vous accompagnez les femmes dans ça, c'est un soutien et une ouverture d'esprit et un support incroyable de dire « Ok, ma femme est passée par là, elle sait ce que c'est, elle s'est formée, elle soutient d'autres femmes, et donc je la supporte en fait. Et ma femme est passée par la ménopause aussi. »
Oui.
C'est une réalité, en fait. C'est que cette ouverture d'esprit, cette acceptation et ce soutien.
Pour moi, c'est normal. Voilà.
Mais pour la société, ça ne l'est pas, en fait.
Oui, ça paraît étrange pour les autres, mais pour moi, c'est normal. On s'est toujours soutenu. C'est notre éducation qui a fait. Moi, j'ai toujours vu mes beaux-parents. Pourtant, c'est des personnes très, très traditionnelles qui n'ont jamais quitté la ville de Fès. J'ai toujours vu mon beau-père soutenir sa femme, mais dans tout ce qu'elle entreprenait. Donc, qu'il soit d'accord ou pas. Mais il était là. Le soutien était là. Mon mari, au début... Alors, aussi, hein, quand même, il fallait qu'il voie par lui-même l'évolution de ma page pour vraiment comprendre l'utilité de cette page.
Oui.
Voilà.
Parce que c'est vraiment l'utilité de cette page, exactement. C'est pas simplement être sur les réseaux sociaux, c'est véritablement, comme vous dites, c'est bien l'utilité, oui.
Je ne vis pas de ça, vous voyez, donc ce n'est pas mon gagne-pain. Il ne comprenait pas, il me dit quelle est l'utilité au début. Mais là, il comprend mieux quand je lui montre des fois, quand je partage avec lui certains témoignages. Dernièrement, j'en ai eu un très, très émouvant. Donc oui, là, il comprend. Hein, mais il m'a toujours soutenue, mes filles aussi. Hein.
Mais elles ont un beau modèle devant elles et un modèle qui va leur permettre de vivre cette future phase avec beaucoup de sérénité, parce qu'elles ont vu comment elle a pu être gérée par leur propre mère.
Ben, je leur dis, moi j'essaye de leur montrer. Au fait, la création de cette page au début, j'ai été motivée par mes filles.
D'accord.
Je voulais leur montrer, parce qu'elles me disaient, oh, maman, t'es trop vieille pour les réseaux sociaux, ça va pas être trop de trucs, ça va pas marcher, il y a que la jeunesse qui est dessus, etc. etc. J'aurais dit, mes filles, vous... Votre maman peut réussir quand même et peut avoir une communauté très, très engagée. Eh bien, je leur ai prouvé. Et je leur ai prouvé qu'on peut tout faire et à tout âge. Et que tant qu'il y a de la vie, on peut toujours, toujours entreprendre quelque chose, vivre et avancer. C'était aussi, cette vision-là que je voulais transmettre à mes filles.
Et cette vision, donc, justement, c'est aussi par rapport à l'entraide, à la création de la communauté. Vous l'avez dit, j'ai une communauté autour de moi. Le besoin est vraiment là.
J'ai une communauté très, très engagée, effectivement. Oui, le besoin est là.
Quand vous dites...
Les femmes,
oui, pardon, allez-y.
Beaucoup de femmes, 35 et plus.
Oui. Alors, quand vous dites je n'en vis pas, mais aujourd'hui vous accompagnez des femmes.
J'accompagne des femmes et la grande majorité du temps, je le fais gratuitement.
D'accord.
Voilà, je le fais gratuitement. Non, non, je n'en vis pas parce que ce n'était pas mon but au début et ça ne l'est toujours pas. Donc, c'est très enrichissant pour moi aussi hein, de partager, de communiquer. Et puis, des fois, il y a des petits groupes comme ça, des petites sorties entre femmes. Et puis, on échange un petit peu nos ressentis, nos expériences. Et ça m'enrichit. Hein, et je grandis avec ça aussi. Mmh.
Et vous n'êtes plus dans l'enseignement ?
Ah si, je suis toujours dans l'enseignement. À mi-temps.
Okay.
Pour pouvoir me consacrer à ça, justement.
Ouais. Mais vous pourriez en faire un super projet, en fait, d'en vivre et peut-être d'accompagner davantage les femmes. Parce qu'en tant que femme, quand je demande un conseil, je sais que, et si je ne le paye pas, par exemple, ou un accompagnement, je ne pourrais pas peut-être demander plus qu'un petit conseil. Sinon, j'aurais l'impression d'abuser. Alors que si c'est un accompagnement professionnel,
oui.
Avec un contrat moral et financier. Ouais. Là, c'est différent. J'ai affaire à un professionnel avec un programme, etc. Donc,
oui, ça viendra peut-être.
Écoutez, Soumeya, alors peut-être pour finir, ce qui vous a poussé aussi peut-être à être comme ça, est-ce que c'est une expérience personnelle liée à votre maman, à votre vécu ? Comment vous avez vu la femme prendre de l'âge ?
Oui, effectivement, ma mère est très fatiguée. Elle est très dépendante. Elle n'a jamais fait de sport. Beaucoup de problèmes de santé. Donc, oui, je n'aimerais pas vivre ça. J'aimerais repousser la chose peut-être le plus loin possible ou peut-être ne pas la vivre et ne pas faire subir ça à mes enfants parce que c'est vrai que c'est un plaisir pour nous de nous occuper de nos parents. Mais quand on a des enfants qui vivent loin... Voilà, on se dit, vaut mieux rester autonome le plus longtemps possible.
Soumeya Idrissi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Ah ben, merci à vous, c'était un plaisir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.